Mes chers amis, bonjour. Ici David et bienvenue à la saison 3 de Quelle Histoire. J'espère que vous avez la pêche. Ça me fait toujours plaisir de vous retrouver une fois de plus pour cette troisième saison. Avant toute chose, la famille, ALP. Je répète, ALP. Abonnez-vous, likez et partagez. Abonnez-vous pour recevoir les notifications des nouveaux épisodes. Likez parce que c'est du bon, hein, quand même. Hein. Et partagez parce que bah, ça ne mange pas de pain. Fervente de justice sociale et d'intégration. L'amélioration de l'état de santé et du bien-être des personnes marginalisées et son cheval de bataille. Son souhait, prendre part à la formation d'une relève professionnelle sensibilisée aux enjeux sociaux et aux besoins de santé de ces personnes. Canadienne d'origine maghrébine, je vous laisse découvrir qui est Iman Sta Ali. Salut Iman, comment vas-tu?
Ça va bien et toi?
Ah, très bien, très bien. Comment tu traites la vie?
Ça va.
Ça va?
Oui.
On va commencer par un voyage dans les allées de ton enfance et le tourbillon de ta jeunesse. En okay. Gros, qui est Iman?
Je suis d'origine tunisienne, mais je suis née ici à Montréal.
D'accord.
Puis, c'est ça, j'ai grandi à Montréal.
T'es née, t'as grandi à Montréal. Oui. Et puis, t'as quel âge?
J'ai 28 ans.
28 ans, ok. Et est-ce que t'as toute ta famille ici au Canada ou il y a une partie de ta famille qui est en Tunisie?
Une grande partie de ma famille est ici au Canada. J'ai quand même une partie qui est en Tunisie.
D'accord. Tes parents sont ici au Canada avec tes frères?
Ouais. Oui, j'ai un frère.
Tu es étudiante en cinquième année de doctorat en psychologie. Tu étudies les questions de racisme et d'identité chez les communautés.
Oui.
Et plus particulièrement dans le cadre des relations amoureuses interculturelles. Peux-tu élaborer un petit peu là-dessus?
Oui, c'est ça. Donc là, je commence ma cinquième année.
D'accord.
Je viens juste de commencer. Puis, donc, le doctorat en psychologie se divise en deux. Il y a la partie clinique où c'est plus une formation en intervention, donc avec les patients, etc. Puis, il y a une formation en recherche.
D'accord.
C'est dans le cadre de ma formation en recherche que je m'intéresse à l'impact du racisme dans les couples interculturels plus particulièrement, puis comment ça impacte l'identité des partenaires.
Toi, est-ce que tu es musulmane ou pratiquante ou pas du tout?
Oui, je suis musulmane, mais non, je ne suis pas totalement pratiquante.
OK. Et qu'est-ce que tu penses de tout ce qui est voile? Parce qu'à un moment donné, je sais qu'en France, c'est quelque chose c'est un sujet qui dérange. Au Canada, un peu moins. À un moment donné, c'était devenu un peu aussi, surtout du côté du Québec. Et à Montréal, j'ai vu des images de femmes voilées ou des femmes musulmanes se faire agresser verbalement ou des fois même presque physiquement. Que penses-tu de tout ça? Comment tu vois... qu'est-ce que tu penses de ce genre d'action, de ce genre d'activité, enfin, de ce genre de réaction?
C'est vrai que l'islamophobie est vraiment plus présente en France, mais elle est également présente au Québec. C'est un enjeu quand même très important. Dernièrement, je ne sais pas si tu en as entendu parler de la loi 21 qui interdit les signes religieux sur la place publique, qui a affecté beaucoup les femmes voilées au Québec. Moi, bien sûr, je trouve ça ridicule. Ça s'insère dans une forme de discrimination. Puis, c'est ça, c'est une forme d'islamophobie qui existe encore ici au Québec. On l'a vu dans les réseaux sociaux, on en a entendu beaucoup parler. Mm-hmm. Les femmes voilées se sont beaucoup prononcées sur ces enjeux-là qui les affectent beaucoup. Moi, je trouve ça vraiment triste. C'est des femmes qui ont fait leurs études, qui veulent contribuer à la société québécoise, qui veulent travailler dans le public, puis on les empêche de contribuer à la société, finalement.
Juste par leur accoutrement, quoi.
Ouais, exactement.
OK. Et t'aimes danser. J'ai vu ça vite fait dans tes réseaux sociaux.
Ouais.
<pas?
rire> Oui.
Quel type de danse quels sont les types de danse que tu connais, quoi, que tu pratiques?
Ben, je fais plusieurs danses. Je fais la bachata, la kizomba. Je danse aussi le compas. Mm-hmm. Ça fait quand même plusieurs années que je prends des cours, que je vais à des soirées de danse sociale. Puis oui, j'essaie de faire en sorte que ça continue à faire partie de ma vie, malgré la grosse charge de travail que je peux rencontrer souvent là.
D'accord. Et d'où vient cet amour de la danse?
Il n'y a pas vraiment une source spécifique. Je sais que j'avais commencé à danser comme ça, je voulais juste essayer. J'avais commencé avec des cours de bachata, j'avais vraiment aimé ça. Ça vient aussi, je pense, de la musique que j'écoute.
D'accord.
Pendant une période, j'écoutais beaucoup de musique latine. Mm-hmm. Puis après, j'avais un ami qui donnait des cours de kizomba, donc qui m'a introduit à cette danse-là. Puis par la suite, j'avais aussi beaucoup d'amis qui dansaient le compas, qui m'invitaient à des soirées où il y avait beaucoup de compas, puis j'ai appris comme ça.
D'accord. Qu'as-tu soutiré de la pandémie? Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Ou qu'est-ce que ça t'a enlevé?
Ah, la pandémie, ça a été des temps vraiment bizarres pour tout le monde, pour moi aussi. Au début de la pandémie, je dois avouer que je ne l'ai pas tant mal vécu. Je ne sais pas si j'étais dans le déni ou je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais c'est vrai que d'avoir une période où j'étais vraiment surchargée de travail et que tout s'arrête d'un coup, je me suis dit « waouh, c'est possible de, t'sais, d'avoir des journées où je n'ai rien à faire ». Ça m'a beaucoup permis en tout cas de prendre soin de moi avec... toutes ces histoires de masques, de soins du visage, tout ça. Parce que pendant une période, tout ce qu'il y avait d'ouvert, c'était le Pharmaprix, là. Donc, j'allais là un peu tous les jours. J'ai payé un peu tous les masques qu'il y avait. Je me suis dit, OK, je vais avoir aussi le temps de lire les nombreux livres que j'achète et que je lis jamais. Mm-hmm. Ça m'a permis vraiment de prendre le temps pour moi. Puis, j'ai aussi appris... Le plus grand apprentissage que j'ai fait avec la pandémie, la première année de la pandémie, c'est surtout... à quel point le système, la société nous met de la pression pour être tout le temps productif, tout le temps productif. On est valorisé dans la société seulement quand on est capable de produire quelque chose, quand on est capable de
fournir un effort quelconque, quoi.
Ouais, exactement. Puis grâce à la pandémie, j'ai vu que prendre soin de soi était une priorité. Mmh. Et que c'était possible de le faire, c'était possible de l'intégrer dans la vie de tous les jours.
D'accord. Et puis, est-ce que tu as eu des gens autour de toi qui ont été affectés par ce virus ou pas du tout?
Oui, j'ai eu beaucoup d'amis qui ont eu la COVID. Moi aussi, je l'ai eu, la COVID.
OK. Et dans ton cas, est-ce que c'était virulent ou c'était juste... ou pas du tout?
Non, ça m'a beaucoup affectée. Ça m'a mis vraiment dans le mal. Là, je suis restée... peut-être 2 semaines dans mon lit, j'étais pas capable de rien faire. Mais bon, j'ai pas eu de grosses complications là, qui m'ont amené à l'hôpital, heureusement.
Où étais-tu quand t'as appris que t'avais la maladie de Crohn? Avant de nous expliquer où tu étais, comment tu l'as appris, comment tout s'est passé, explique-nous déjà ce que c'est.
La maladie de Crohn, c'est une maladie inflammatoire des intestins. C'est une maladie auto-immune et chronique, donc c'est une maladie à vie, mmh, qui affecte principalement donc, le système digestif, mais ça peut aussi avoir des impacts sur les articulations et aussi ça peut causer des problèmes de peau.
D'accord. Donc, où étais-tu quand tu as appris que tu avais la maladie de Crohn?
Donc, j'étais à l'hôpital.
Et tu avais quel âge?
J'avais 15 ans.
D'accord.
J'avais manqué 2 mois d'école parce que ça allait pas. Donc, j'avais vraiment des gros symptômes digestifs. J'étais plus capable de manger. J'avais perdu énormément de poids. Puis, c'est une maladie qui se diagnostique pas rapidement. Puis aussi, les médecins, je pense que... Je sais pas exactement comment ça se passe, mais je pense que... Ils vont pas essayer de chercher ça en premier lieu quand il y a des symptômes digestifs parce qu'il y a tellement de causes possibles. Donc, après plusieurs allers-retours... Pardon?
Ils sont passés à côté, quoi, au début.
Ouais, c'est ça, exactement. Peut-être que ça apparaissait pas dans les analyses, mais j'ai fait plusieurs allers-retours à l'hôpital pendant 2 mois. C'était vraiment éprouvant. Puis, finalement, après plusieurs tests, le médecin qui me suivait à ce moment-là, ça nous a annoncé que c'était la maladie de Crohn. Puis c'est ça. Là, je me rappelle que j'avais cherché sur Google mes symptômes, puis ça avait sorti plein de diagnostics et j'avais vu que c'était une possibilité. Ça me faisait peur parce que je me disais que, en fait, j'espérais vraiment que ce soit quelque chose de ponctuel, mais finalement, non, c'est ça, c'est une condition chronique, donc à vie.
D'accord. Et comment ça t'affecte dans ta vie de tous les jours, si jamais ça, c'est le cas?
C'est sûr que c'est ça. C'est comme je dis, c'est quelque chose de chronique. Donc, c'est tous les jours. Et depuis 15 ans, il a fallu que j'apprenne à m'adapter à ma nouvelle réalité. Ça s'est fait de différentes façons parce que c'est une maladie qui évolue aussi. Puis, comme j'ai dit, ça n'affecte pas tout le temps le système digestif. Des fois, c'était des problèmes de peau. Des fois, puis récemment, c'est des problèmes d'articulation.
D'accord.
Donc, des douleurs. Moi, c'est particulièrement au niveau des pieds que ça m'affecte. Et c'est ça. Donc, ça prend vraiment une adaptation. Puis, je dirais que ce que je disais un peu plus tôt sur la pandémie qui m'a appris à prendre soin de moi, ça a été un apprentissage vraiment important pour ma condition de santé. Parce que souvent, les gens qui ont des problèmes de santé chroniques, que ce soit la maladie de Crohn ou peu importe d'autres maladies qui existent, ils vont se donner encore plus pour réaliser ce que les gens qui n'ont pas de problèmes de santé font au quotidien. Pour atteindre ce même niveau, il faut faire beaucoup plus d'efforts, il faut se donner beaucoup, c'est ça, pour arriver. On ne commence pas au même niveau. C'est ça, c'est comme si la ligne de départ n'est pas la même pour ceux qui ont des conditions de santé chroniques. Et pour essayer d'atteindre le même niveau que les autres, c'est du surinvestissement, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de sacrifices aussi. Mais ce que j'ai appris, c'est que la santé, c'est important. C'est très cliché, mais c'est la vérité. Si tu ne t'occupes pas de ta santé, tout le reste des accomplissements ne sert à rien parce que tu peux tout perdre d'un coup. Oui, il y a des moments de rétablissement, heureusement. Là, c'est comme ça que j'ai réussi à fonctionner. Mais c'est ça, c'est une maladie qui évolue. Puis, il y a des traitements à vie. Pendant les premières années de ma vie, c'était des pilules que je prenais. Puis, depuis quelques années, c'est des perfusions. Donc, aux 7 semaines, je dois me rendre à la clinique pour avoir une perfusion qui dure 1 heure ou 2 heures. C'est ça. Puis, il y a d'autres traitements possibles. Il y en a qui ont des chirurgies, par exemple. C'est ça, il y a plein de traitements disponibles.
Quel est ton film préféré de tous les temps et pourquoi?
Mon film préféré, c'est L'Enfant de Mars.
D'accord.
Je veux pas spoil quelqu'un qui l'a jamais vu et qui veut le voir. C'est pas un film populaire, là. C'est pas un classique. C'est un film que j'ai regardé comme ça, qui passait à la télé. Je l'avais regardé par hasard il y a plusieurs années. Et ça parle, en fait, c'est l'histoire d'un enfant qui est adopté par un père monoparental et qui écrit de la science-fiction. Et cet enfant-là, tout le long du film, il est persuadé qu'il vient de Mars, que c'est un martien.
D'accord.
Et tout le film, c'est genre rigolo qu'il vient de Mars, etc. Mais vers la fin, ça devient un peu plus dramatique, où on se rend compte que, en fait, toute cette question de que c'est un martien qui s'est convaincu qu'il est martien, c'était une manière de... C'est comme un mécanisme de défense chez lui pour entre guillemets, se consoler d'avoir été abandonné. Parce que c'est ça, c'était un enfant qui était orphelin. Et pour s'expliquer à lui-même, en fait, que il a été abandonné, c'est pas une question qu'il n'ait pas désiré, etc. Mais il s'est convaincu qu'il était martien. Puis cette femme m'a vraiment touchée. Je l'avais vue quand j'étais adolescente, ça m'a vraiment touchée, puis ça m'a fait réaliser à quel point les enfants sont capables de résilience, là, parce que lui, il est parti dans un monde fantastique, là, dans une fantaisie, cet enfant-là, pour se protéger. Pour se protéger de quelque chose de vraiment horrible, de se dire à un enfant que je ne suis pas aimée, que mes parents m'ont abandonnée, etc. Donc, c'était sa manière à lui de se protéger.
D'accord. Est-ce que c'est un film européen,
Non, c'est un film américain.
Américain, L'Enfant de Mars.
Ouais.
Ah, d'accord. OK. Et quelle est ta chanson préférée de tous les temps et pourquoi?
Ma chanson préférée, je dirais que bon, mes goûts musicaux ont tellement évolué, j'écoute vraiment de tout. Mais une chanson qui m'a marquée, que j'avais écoutée aussi quand j'étais ado, c'est Qui peut me stopper de La Fouine.
D'accord.
C'est vraiment particulier comme réponse, je sais.
Mais... Baby.
Mais c'est parce que mais j'ai eu une casson, hein, parce que.
Parce ah que... non, t'as le droit, hein, t'as pas.
Mais je l'écoute, Non, mais je l'écoute encore parce que ça me rappelle des souvenirs, là, tu sais, mais c'est surtout parce que, tu sais, quand t'es ado, tu te cherches, là, tu cherches ton identité, etc. Puis moi, comme je suis d'origine tunisienne, maghrébine, qui est née, qui a grandi à Montréal, ici, à Montréal, on est quand même récent, donc l'immigration de l'Afrique du Nord est quand même récente, elle n'est pas aussi vieille qu'en France. Puis, en grandissant, on n'avait pas de modèle. Il n'y avait pas des personnes maghrébines qui étaient quand même connues ou des artistes ici. Donc, pour se reconnaître quelque part, il fallait chercher en France. Donc, c'est en écoutant la musique, genre le rap français, etc., qu'on était capable de se retrouver un peu en tant qu'adolescent maghrébin. Puis moi, c'est une chanson que j'avais découverte quand j'avais peut-être 14 ans ou quelque chose comme ça. Puis... c'était une des premières chansons que j'avais écoutées du rap français. Puis je suis comme, ah, oh, waouh, ça existe, des Maghrébins qui rappent sur notre réalité. Voilà. Et voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça me marque encore, cette chanson-là.
Qui peut me stopper, d'accord.
Ok, je viens de loin, et vu mon temps, je dois faire les choses bien. Mais qui peut me stopper, renier mon identité, je peux pas essayer. Mais qui peut me stopper, je viens de loin, et vu mon temps, je dois faire les choses bien. Mais qui peut me stopper, renier mon identité, je peux pas essayer. Mais qui peut me stopper, mais qui peut me juger.
Toi, j'ai choisi ce qu'on appelle, enfin ce que j'appelle l'entretien vérité. Si tu pouvais créer une loi que tout le monde devrait appliquer, que serait-elle?
Je ne sais pas si je créerais une loi, mais par contre, si je devais abolir une loi, ça serait la loi 21. qui interdit les signes religieux sur la place publique, qui est une loi discriminatoire. Donc, j'abolirai cette loi pour que tout le monde puisse être libre de leur confession et de leur pratique religieuse.
Si tu pouvais être quelqu'un d'autre pour une journée, qui aimerais-tu être?
David, pour connaître les histoires de toutes sortes de personnes. J'aimerais vraiment passer mon temps à écouter les histoires de vie des gens.
David, qui, moi?
Ouais.
Je suis là, c'est qui, de quel David? David et Goliath? D'accord, bah c'est bien. C'est cool. Et si tu pouvais changer une chose dans ta vie, qu'est-ce que ça serait? Que changerais-tu?
Ben, c'est sûr que c'est peut-être une réponse un peu facile, mais je pense que je choisirais de ne pas avoir de conditions de santé. Ben, dans le sens que je choisirais ouais, de problèmes de santé.
Ben, ça va de soi, c'est clair.
Ouais. Ouais.
Ok. Et si tu pouvais voyager dans le temps, à quelle époque irais-tu?
Ouh, c'est compliqué cette question-là parce que... Mais je pense que je choisirais... Je suis quand même assez fascinée par les années 70, les années 80, à Montréal. Je suis vraiment curieuse de savoir c'était comment à l'époque. C'est sûr que, bon, à cette époque-là, il n'y avait pas autant d'ouverture d'esprit, là. C'était atroce pour les personnes racisées comme un peu partout dans le monde, mais ça m'intrigue quand même.
Mm-hmm. Et si tu avais à choisir entre pouvoir parler à tous les animaux du monde ou pouvoir parler toutes les langues du monde, que choisirais-tu?
Ah, c'est une bonne question, mais je pense que je vais choisir de parler aux animaux.
Pourquoi?
Parce que moi, j'ai deux chats et souvent, je me questionne qu'est-ce qui se passe dans leur tête. J'aimerais tellement avoir une conversation avec mon chat.
J'aimerais bien savoir ce qu'ils pensent de toi.
Hein. Ouais, c'est ça.
D'accord. Je te demanderais de choisir un chiffre entre 1 et 10.
2.
Où te vois-tu dans 2 ans?
Dans 2 ans, je vois que j'aurai fini mon doctorat dans 2 ans.
D'accord.
Espérons-le, mais c'est ce que je vis, c'est ce que j'aimerais.
D'accord, ben, c'est très bien. Et que pouvons-nous te souhaiter pour l'avenir?
Je pense la réussite et la santé.
Ah bah ben, ça c'est super ça. Bah écoute, Iman, je te remercie énormément d'avoir pris le temps de partager ta vie, une portion de ta vie avec nous. Moi, je peux que te souhaiter que de l'élite, que tout se passe bien pour toi et que tu avances bien.
Ben, merci beaucoup, David, de m'avoir accueilli aujourd'hui.
Voilà, c'est déjà fini. Merci à tous et à toutes d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Merci à Iman, merci pour tout. ALP, ALP, ALP. Abonnez-vous, likez et partagez. Je répète, abonnez-vous, likez et partagez. Lâchez-moi 5 étoiles si vous êtes sur Apple Music ou un commentaire si vous utilisez des plateformes telles que Spotify, Google Podcast et autres. Tout cela permettra de donner plus de visibilité au podcast, donc je compte énormément sur vous. Suivez-moi sur ma page Instagram et Facebook à quellehistoire.podcast. N'hésitez pas à m'écrire par mail à quellehistoire.podcast@gmail.com. À chacun son histoire, mais quelle histoire! À vous de le découvrir dans le prochain épisode. Ciao, ciao!